Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires. Comme tous les mercredis soirs, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Tous les mercredis soirs, 20h, 21h, sur cette antenne de Radio Canu. L'occasion pour nous militants et militantes de l'Union Communiste Libertaire de faire un petit peu le tour de l'actualité et de vous faire part de nos grilles de lecture et de nos analyses. Et puis, comme d'habitude, on commence traditionnellement cette émission par les annonces et par les rendez-vous. Quelques annonces et rendez-vous. Tout d'abord, une mobilisation sociale dès demain, parce que de nombreuses écoles sont occupées en ce début d'année par les personnels, enseignants, administratifs et autres, mais aussi surtout par les parents d'élèves solidaires, pour mettre à l'abri des enfants et des familles qui sont à la rue. C'est déjà de nombreuses années malheureusement que ça dure, et puis au-delà des écoles qui sont occupées par ces collectifs solidaires, il y a aussi plusieurs squats qui sont devenus les uniques solutions de logement pour des centaines de familles qui ont été expulsées récemment de leur logement, qui ont été ouverts pour accueillir ces familles d'enfants scolarisés qui se trouvent sans toit. Et donc c'est pour dénoncer cette situation dramatique d'enfants scolarisés qui dorment à la rue avec leur famille que les collectifs Jamais Sans Toit et le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse appellent à un rassemblement demain devant la préfecture du Rhône, demain jeudi 17 octobre à 17h30 à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Et bien évidemment on peut que appeler à se joindre à cet appel pour un moment qui devrait être à la fois militant et festif autour d'un barbecue et puis de différentes animations pour rappeler que un toit c'est un droit et que l'État doit respecter notamment le droit au logement opposable et que le droit des enfants et le droit des êtres humains en général, d'où cet appel à ce rassemblement ce jeudi 17 octobre à 17h30 devant la préfecture du Rhône, quai aux Gagneurs plus précisément, devant le square des Lestrins. Voilà pour le premier rendez-vous de lutte et de mobilisation demain.
Et du coup, on continue comme toujours avec ce samedi la marche en soutien au peuple palestinien et libanais. Le rendez-vous, c'est à 15h, place Jean Massé. On le voit encore tous les jours, hein, le massacre continue. Les dernières images horribles qui nous parviennent montrent par exemple l'hôpital Al-Aqsa à Gaza en feu, avec encore des patientes et des patients à l'intérieur, frappés dans leur sommeil. On estime que cette frappe, à elle seule, a fait aux alentours de 20 morts. On voit aussi que l'armée israélienne menace désormais les casques bleus de la FINUL, la force de des Nations Unies, pardon, qui est présent au sud Liban. Tsahal leur a demandé de quitter leur position à la frontière israélo-libanaise, les casques bleus ayant refusé. Les Israéliens les ont tout simplement attaqués. Que ce soit pour le bombardement de l'hôpital ou pour l'attaque contre la FINUL, les réactions des dirigeants et des médias français restent très très tièdes, pour pas dire froides ou inexistantes. C'est donc plus que jamais nécessaire de faire entendre notre voix contre les bombardements, pour un cessez-le-feu, contre les déplacements forcés de population et pour des sanctions contre un État qui semble n'avoir rien à faire du droit international. Rendez-vous donc ce samedi à 15h, place Jean Massé. Et on continue avec lundi prochain, le 21 octobre, une discussion autour de Frantz Fanon et de son héritage au bar Les Clameurs. À partir de 18h30. Frantz Fanon, c'est un militant révolutionnaire et penseur martiniquais qui a été étudiant en médecine à Lyon. Il obtient en 1953 un poste de psychiatre à l'hôpital Bilda en Algérie, qu'il quittera quelques années plus tard pour rejoindre le Front de Libération Nationale Algérien. Dans son livre, par exemple, Les Damnés de la Terre, il analyse les blessures causées par la colonisation et son travail va inspirer de nombreuses luttes antiracistes et anticoloniales. Qui était Frantz Fanon? Quel a été son impact sur les luttes de son époque? Et quel héritage peut-on tirer dans nos luttes d'aujourd'hui? C'est là toutes les questions qui seront discutées en compagnie de Douce Dibondo, chercheuse, autrice et militante, qui a notamment publié cette année l'ouvrage La charge raciale, vertige d'un silence écrasant. Le rendez-vous, c'est ce lundi 21 octobre à partir de 18h30 au Clameur, dans le 7e arrondissement.
Et puis un autre rendez-vous de mobilisation dont on vous reparlera un peu plus tard dans l'émission, puisqu'on va faire une grosse page lutte antipatriarcale sous de nombreux aspects au cours de cette émission Idées Noires. C'est ce samedi à l'occasion du procès des viols de Mazan, pour dire qu'à Mazan comme ailleurs, il est important de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a ce samedi un rendez-vous à l'appel du collectif Grève Féministe et de nombreuses associations féministes devant le palais de justice. Les cinq colonnes, 1 rue du Palais de Justice à Lyon 5e, pour un rassemblement donc, qui est appelé plus largement dans le Rhône par le collectif Droits des Femmes. Collectif Droits des Femmes qui appelle à ce rassemblement donc, ce samedi 19 octobre à 14h pour lutter encore et toujours contre les violences sexistes et sexuelles. On vous en parlera un peu plus de tous ces enjeux-là au cours de cette émission. Et puis, pour commencer cette émission Idées Noires, on voulait aussi faire écho à un triste anniversaire. Demain, nous serons le 17 octobre. Et le 17 octobre, c'est une journée noire de deuil et rouge de colère, parce que le 17 octobre, ça fait référence à ce sinistre 17 octobre 61. 17 octobre 61, quand des milliers d'Algériens vivant en France, immigrés algériens, essentiellement menés par des familles, des hommes, mais surtout des femmes et des enfants, ont décidé de descendre dans les rues de Paris, en pleine guerre d'Algérie, de manifester, pour dénoncer le cynique couvre-feu qui leur était imposé, parce que basanés, ils apparaissaient comme suspects en France et comme des soutiens à la cause indépendantiste algérienne, et qu'ils devaient regagner leur foyer, qui était bien souvent des taudis, des logements et des bidonvilles tels celui de Nanterre, à partir de 20h ou 18h ou 19h selon l'heure du coucher de soleil. Et ben, pour dénoncer ce couvre-feu qui leur était imposé, c'est des milliers d'Algériens qui, le 17 octobre 61, à 20h, ont défilé dans les rues de Paris, sur les bords de Seine, pour protester contre cette mesure et aussi apporter leur soutien à ceux qui se battaient et qui réclamaient l'indépendance en Algérie. Mal leur en a pris, puisque le sinistre préfet de police de l'époque, Maurice Papon, qui s'était déjà illustré durant la Seconde Guerre mondiale en étant en poste comme préfet du régime de Vichy à Bordeaux, et qui avait livré un certain nombre de juifs et notamment d'enfants juifs à la Gestapo pour leur déportation dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau, et ben ce sinistre Papon, qui avait su se recycler dans la quatrième et cinquième république, est passé au travers des mailles de l'épuration. Il s'était peut-être recyclé d'apparence, mais certainement pas d'idées ni même de méthode, puisque Maurice Papon avait envoyé sa police sévèrement mater cette manifestation d'Algériens et d'Algériennes, en leur donnant ce qu'on appellerait parfois une licence tout kill, un permis de tuer, en leur disant qu'ils pouvaient en effet taper, tabasser et tirer dans la foule. Et la police a procédé en effet à des ratonnades massives, pour utiliser ce nom ce soir-là. La police a ouvert le feu contre la foule, la police a embarqué dans des cars où elle a ensuite tabassé à mort un certain nombre de personnes. Et au total, c'est selon l'historien Jean-Luc Enaudi, qui a fait un travail extrêmement documenté sur ce massacre du 17 octobre 61, un massacre de plus de la police française, et un fait important des violences policières en France, aux alentours de 340-360 Algériens au bas mot qui ont été tués, tabassés, abattus, et dont les corps ont ensuite été jetés dans la Seine. Voilà comment la police de la 5e République traitait les immigrés qui réclamaient l'indépendance de leur pays ce 17 octobre 1961, et voilà comment la police française a réprimé cette manifestation, police aux ordres d'un sinistre personnage, d'un ancien collabo, Maurice Papon. C'est ce qu'on voulait rappeler aujourd'hui, en cette veille de la commémoration de ce 17 octobre 61. Et justement, on va faire une première pause musicale en écoutant la Brigada Flores Magón, qui nous rappelle cet octobre rouge, cet octobre noir, 17 octobre 61.
De retour de manière un peu précipitée dans Idées Noires, visiblement un petit souci avec le lecteur CD, mais ce sera réglé dans très peu de temps. C'est l'occasion de vous rappeler aussi du coup que ce 17 octobre 1961 fait l'objet d'un article dans notre journal Alternative Libertaire qui est donc un long article sur cet événement du 17 octobre 1961 qui est intitulé « Riposter à un crime d'État ». Je crois que je vous en avais parlé il y a 2 semaines déjà à la sortie du numéro. C'est un article qui revient sur cet événement et un peu plus précisément sur la place qu'ont pris les partis politiques et leurs paroles à ce moment-là. Et on avait noté notamment un silence assez assourdissant ou en tout cas des réactions tièdes de la part de la gauche, hormis le PSU. Voilà, vous pouvez retrouver ça dans Alternative Libertaire.
Allez, octobre 61, cette fois-ci de la brigade à Florence Magog.
Canu, la plus rebelle des radios. Vous êtes sur Idées Noires. On est ensemble jusqu'à 21h. Et on va ouvrir une petite page, une grosse page anti-patriarcat, comme tu nous l'as dit, David.
Et oui, on vous le rappelait tout à l'heure en début d'émission pendant les rendez-vous. On vous rappelle ce samedi, hein, ben, ce samedi 19 octobre, dans nombreuses villes de France, il va y avoir des rassemblements, des mobilisations en lien avec le procès des viols de Mazan, en soutien à cette femme victime d'avoir été livrée en pâture par son mari à une cinquantaine de violeurs. Et à Lyon notamment, on vous l'a dit, rendez-vous ce samedi 14h devant le palais de justice. Le palais, la cour d'appel sur les quais de Saône, 1 rue du Palais de Justice à Lyon 5e, un rassemblement qui est appelé par le collectif Droits des Femmes du Rhône et puis qui s'inscrit dans les mobilisations qui sont lancées au niveau national par le collectif Grève Féministe et par de très nombreuses associations féministes qui souhaitent aussi profiter de ces rassemblements pour dénoncer la mise en place du gouvernement réactionnaire, autoritaire et libéral qui est celui en place de Barnier, qui fait des propositions directement inspirées par l'extrême droite, parce qu'en effet on peut être qu'inquiet de la composition de ce gouvernement, hein, une fois de plus par exemple son ministre du droit des femmes de plein exercice, dont plusieurs ministres et secrétaires d'État se sont notamment illustrés pour leur participation à la manif pour tous et puis ou pour le vote contre l'inscription par exemple de l'IVG dans la Constitution, quand par exemple Bruno Retailleau ose dire que l'état de droit n'est pas intangible, ben nous savons que ce qui se niche derrière, c'est que chaque conquête de droit peut être du coup attaquée. Et puis le discours de politique générale du Premier ministre, même s'il a rappelé les droits conquis, doit nous alerter parce que on sait que quand on voit son orientation répressive et sa conception de la justice, on peut se dire qu'il y aura des atteintes qui seront menées notamment en direction des mineurs avec par exemple la promesse du tout carcéral. C'est pour ça qu'on ne peut que condamner les premières déclarations du ministre de l'Intérieur qui affirme aussi préparer une nouvelle loi immigration qui met en avant tout ce qui a été rejeté précédemment par le Conseil constitutionnel, notamment la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, alors qu'on sait que les femmes exilées, les femmes réfugiées ont déjà payé un très lourd tribut aux politiques racistes d'exclusion avec le vote de nombreuses lois immigration ces dernières années, et que si ces femmes se trouvent en plus privées de cette AME, et ben ça va être une régression pour leurs droits, pour leurs conditions sociales, évident. On sait que l'extrême droite a démontré sa capacité à se préoccuper des violences faites aux femmes que pour les manipuler à des fins xénophobes et racistes. On vous en parlait il y a 15 jours, hein, comme ça a été encore une fois le cas à propos du sordide meurtre de Philippines, cette étudiante violée, tuée, enterrée dans le bois de Boulogne par un immigré marocain. Bien sûr, on peut que condamner ce féminicide, tout comme nous condamnons et luttons contre toutes les féminicides, mais peu importe la nationalité du meurtrier, c'est pas ça qui est important, c'est pas l'origine, la carte d'identité ou la couleur de peau qui a fait le féminicide, mais c'est bien la domination masculine et l'ordre patriarcal qui en est responsable, et c'est contre ça qu'il faut attaquer. Là aussi, il ne faut pas tomber dans les manipulations de l'extrême droite et se tromper d'ennemi. Alors, à de nombreuses occasions, et notamment par exemple lors des grèves féministes du 8 mars dernier, il a été possible de se mobiliser pour le droit des femmes en exigeant une politique qui mette fin aux violences sexistes et sexuelles, aux discriminations, à la précarisation qui touche particulièrement les femmes, les enfants et les minorités de genre. Et justement, à propos des violences sexistes et sexuelles, ce fameux procès de Mazan dont on parle, ce procès de 51 violeurs, il illustre ce que les féministes mettent en avant depuis longtemps. C'est-à-dire que les auteurs de viols, ce sont des hommes ordinaires, et qu'il y a urgence à mettre en œuvre donc une politique globale qui permette aux victimes d'être enfin entendues, d'être accompagnées, et qu'on en finisse tout simplement avec la quasi-impunité des auteurs de viols, et que pour en finir avec cette véritable culture du viol, on peut que exiger une loi cadre intégrale qui prenne en compte tous les aspects de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire la prévention, l'éducation, la protection des victimes, mais aussi la solidarité financière, avec un budget que les associations féministes chiffrent aux entours de 2,5 milliards d'euros qui serait nécessaire, parce que la lutte contre les violences, elle doit également intégrer le renforcement du suivi socio-judiciaire des agresseurs pour éviter et pour prévenir toute récidive. Alors les nominations ministérielles du ministre de l'économie à celui du travail ou de la fonction publique montrent au contraire que la continuité des politiques néolibérales avec comme corollaire la casse du service public, le détricotage du code du travail, la mise en concurrence des salariés entre eux et elles et la remise en cause des droits sociaux vont au contraire encore accentuer les inégalités hommes-femmes dans de nombreux secteurs. Que concernant le plan économique d'économie et de restrictions budgétaires qui a été annoncé par le Premier ministre dans son discours de politique générale début octobre dernier, on peut que refuser que ce soit une fois de plus les services publics et les personnes les plus modestes, les salariés ou non d'ailleurs, les privés d'emploi, les retraités qui en subissent les conséquences. On a vu que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la suppression de l'impôt sur la fortune et les subventions conséquentes aux grandes entreprises sans contrepartie mises en place par les gouvernements successifs, ont été accompagnés du démantèlement des services publics et des baisses de subventions aux associations au détriment des usagers et des personnels, que l'accès de toutes et tous à la santé, à l'éducation, au logement n'est plus garanti, sans compter l'absence d'un véritable service public de la petite enfance et puis d'un service public de l'accompagnement des personnes, par exemple en situation de perte d'autonomie, et que dans ce cadre-là, considérer socialement que les femmes sont les aidantes naturelles des personnes âgées et des enfants, c'est tout simplement perpétuer un système patriarcal qui inculque l'infériorité des femmes, qui est en fait le terreau des violences qu'elles subissent au quotidien et l'inégalité du partage des tâches domestiques. On pourrait aussi parler de l'augmentation des prix des biens de première nécessité, l'alimentation, l'énergie, le carburant, l'eau, les protections périodiques, qui précarisent une partie de la population et là encore les femmes en premier lieu. L'inflation, les inégalités au travail et face à la parentalité, elles appauvrissent d'autant davantage les femmes et encore plus celles qui sont isolées, les mères isolées, celles qui sont seules avec leurs enfants. On pourrait rappeler par exemple que les femmes en situation de monoparentalité et les enfants constituent une grande partie des personnes les plus pauvres. 35% des mères de famille monoparentales, 25% des actives et 68% des inactives vivent sous le seuil du pauvreté depuis le début des années 2020, ce qui est particulièrement inquiétant. On sait que l'augmentation des salaires, particulièrement ceux des métiers féminisés et des bas salaires, des pensions et l'augmentation des minima sociaux sont indispensables pour sortir de cette spirale infernale de la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on refuse cette politique austère et néolibérale qui perpétue et qui accentue au contraire, elle, les inégalités. Nous, on a décidé de continuer à se mobiliser, comme nous nous sommes mobilisés pour le système des retraites décent, avec un départ à 60 ans, pour l'assurance chômage plus juste et qui accentue pas la pauvreté des plus précaires et qui réduit au contraire les inégalités, notamment les égalités hommes-femmes. Toutes ces choses, elles sont extrêmement importantes et c'est pour ça que on a manifesté c'est pour toutes ces raisons qu'on vient d'évoquer qu'on décide de combattre un système qui est le système patriarcal et les politiques néolibérales qui l'alimentent et qu'il faut continuer à se mobiliser dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a manifesté le 14 septembre dernier, déjà en soutien à Gisèle Pellicot. C'est pour ça qu'on a manifesté le 28 septembre dernier pour exiger l'effectivité du droit à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse, la suppression de la double clause de conscience et notre solidarité avec les femmes du monde entier qui ne peuvent plus accéder aujourd'hui à l'IVG libre, à l'avortement libre. Et c'est pour ça qu'on a manifesté le 1er octobre dernier aussi à l'appel des organisations syndicales pour la hausse des salaires et l'abrogation des réformes des retraites pour réduire ces inégalités qui appauvrissent encore un peu plus les femmes. Et c'est pour ça que nous serons donc rassemblés devant les tribunaux ce samedi 19 octobre, une nouvelle fois en soutien à Gisèle Pellicot et à toutes les victimes des violences sexistes et sexuelles, mais aussi des féminicides. Et puis, ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'on vous rappelle qu'à le 20 novembre, on aura l'occasion d'en reparler, qui arrive. Le 20 novembre, nous soutiendrons bien sûr toutes les initiatives autour de la Journée internationale des droits de l'enfant et nous participerons à la Journée du souvenir trans. On va pouvoir continuer à aborder cette question dans cette émission pour honorer la mémoire de toutes les personnes trans qui sont mortes de la transphobie et de la transmisogynie, que ce soit de la haine et des préjugés contre les conditions matérielles qui en découlent, de la précarité ou du suicide. Et puis, enfin, dans le 25 novembre, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous manifesterons partout en France, non pas le 25 novembre parce que ça tombe un lundi, mais le samedi qui précède, le samedi 23 novembre 2024, contre les violences patriarcales fiscale pour exiger une loi cadre intégrale et un budget dédié à hauteur des enjeux. Voilà tous les rendez-vous qui vont rythmer cette fin d'année pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et puis bien sûr, ça ne s'arrêtera pas à la fin d'année, puisque dès le 17 janvier prochain, à l'occasion du 50e anniversaire de la loi sur l'IVG, la loi dite Veil, nous mobiliserons de nouveau parce qu'une importante mobilisation féministe sera nécessaire pour exiger la dépénalisation et un droit plein entier des femmes à l'IVG. Et puis enfin, bien sûr, il y aura la grève féministe du 8 mars 2025, grève sur les lieux de travail, grève au-delà du travail domestique, qu'on espère qu'il sera une aussi belle réussite que celle-ci. Voilà, on va battre le pavé, on va descendre dans la rue pour lutter contre la domination masculine, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, pour lutter contre le patriarcat en général qui touche les femmes, qui touche les minorités de genre et qui touche les trans.
Et oui, qui touche les trans, parce que dans ce large volet que sont les luttes antipatriarcales, il y a les luttes trans. On vous en parle régulièrement dans cette émission parce que c'est une lutte dans laquelle est fortement impliquée l'UCL. Et si on vous en parle cette semaine, c'est parce que le week-end dernier, le 12 octobre, s'est tenu à Paris l'Existrance Inter. L'Existrance Inter, c'est un collectif, une inter-orga, chargée d'organiser la marche donc du même nom qui a eu lieu samedi dernier. Il s'agit d'une marche revendicative pour les droits des personnes trans et des personnes intersexes, dont la première édition remonte à 1997. Cette année, il y a eu un enjeu particulier à visibiliser ces luttes, parce qu'en mai 2024, il y a une loi qui a été votée, une loi qui va à l'encontre des droits des personnes transgenres mineures, puisqu'elle les oblige à passer par des centres spécialisés agréés par l'État pour pouvoir accéder à des soins. Et quand on voit comment l'État traite les personnes trans, il y a matière à s'inquiéter quant au bon accompagnement fourni par ces centres spécialisés. On le rappelle rapidement, mais Macron avait par exemple diffusé une fake news sur le risque de pouvoir changer de sexe en mairie, tout ça pour lancer une panique morale auprès de son électorat de droite. Il y a pas si longtemps, Aurore Berger, quand elle était au gouvernement, avait reçu Dora Mouto et Marguerite Stern, deux militantes transphobes, et plus récemment, notre cher président a nommé, David, à la tête du ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est parmi bien d'autres un réactionnaire homophobe patenté. On comprend bien donc en quoi ces centres spécialisés agréés par l'État peuvent mettre en danger les personnes transgenres. Cette loi de mai 2024, elle restreint aussi grandement l'accès aux bloqueurs de puberté qui ne pourront plus être prescrits que 2 ans après la première visite de la personne dans l'un de ces centres. Et enfin, elle interdit totalement les traitements hormonaux et chirurgicaux aux personnes de moins de 18 ans, retardant d'autant plus la possibilité pour ces gens de s'affirmer et allongeant par là même les souffrances avant une véritable prise en charge. Cette loi arrive dans un contexte politique qui ne fait qu'accentuer les difficultés. On le sait, actuellement, présenter les personnes trans et intersexes comme une menace, les faire disparaître et les éradiquer, ça fait partie des stratégies principales de l'extrême droite à travers le monde. Et à l'UCL, nous continuons de penser qu'il est urgent de s'organiser, de se mobiliser massivement et de lutter ensemble, qu'on soit concerné directement ou non. Parce que la lutte des droits des personnes trans et intersexes, c'est certes un combat antipatriarcal, mais c'est aussi un combat antiraciste. Parce que parmi les premières victimes de la transphobie, on retrouve les femmes trans racisées, qui sont à l'intersection de plusieurs systèmes de domination, comme tu l'as très bien rappelé, David, comme le racisme, le validisme, le patriarcat. Ce sont elles qui subissent le plus intensément et qui sont le moins bien protégées de ces attaques répétées contre leurs existences. Plus globalement, le système patriarcal dégrade les conditions matérielles des personnes trans et intersexes. On peut par exemple citer la mutilation des personnes intersexes dès les premiers jours de la vie, les stérilisations forcées, l'isolement, les ruptures familiales, les discriminations au logement et à l'emploi, les agressions transphobes dans les espaces publics, les violences sexuelles ou encore la prise en charge médicale et l'accès aux soins qui deviennent de plus en plus difficiles quand ils ne sont pas simplement impossibles. Cette lutte rejoint également la lutte anticapitaliste, la lutte des classes, car les attaques contre les droits des personnes trans et intersexes, qu'elles proviennent de l'État ou bien des groupes d'extrême droite, sont des attaques de la classe dominante bourgeoise. Les paniques morales, comme celles lancées par Macron, ont pour but pour la classe dominante de conserver son pouvoir en divisant notre classe et perpétuer l'exploitation qu'elle nous impose. En maintenant les normes patriarcales hétérosexuelles, la classe dominante s'assure que dans la famille, mais aussi dans le cadre du salariat, les femmes restent assignées au travail domestique et reproductif. Cette obsession du pouvoir à maintenir les individus dans cette norme doit aussi être mise en lien avec les récentes ambitions guerrières, militaristes et de réarmement démographique, comme il dit, chères à la classe dominante, qui assure par ce biais de ne jamais manquer de chair à canon ni de main-d'œuvre, en contraignant les personnes capables de tomber enceintes à la maternité et à la reproduction uniquement. C'est donc en remettant en question cette division binaire et genrée de la société et du travail que les personnes trans et intersexes représentent des obstacles et des menaces au maintien de ce système. Cette loi transphobe, votée en mai, elle a été l'occasion d'une riposte massive de contre-offensive trans, puisqu'on a vu, et c'est tant mieux, dans de nombreuses villes, énormément de personnes se mobiliser pour ces droits. Ces manifestations et ces rassemblements, ils nous ont montré que de plus en plus de personnes comprennent les enjeux et l'importance de ces luttes. Et ça, ça nous donne de l'espoir. On le sait désormais, nous sommes en capacité de construire un rapport de force pour exiger l'amélioration des conditions de vie et revendiquer le droit à l'existence digne pour toutes et pour tous. C'est aussi pour nous l'occasion de rappeler que l'UCL a publié une brochure qui s'intitule « Pour une contre-offensive trans », puisque depuis sa fondation en 2019, l'Union communiste libertaire est engagée contre la transphobie. Cette brochure, elle précise notre analyse, notre positionnement et le sens de notre soutien aux luttes trans. C'est une brochure qui est disponible sur notre boutique en ligne, mais aussi gratuitement sur notre site internet à l'adresse unioncommunistelibertaire.org.
Allez, on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Idées Noires, l'émission du groupe local de Lyon, de l'Union communiste libertaire, pour toutes celles qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, pour toutes les victimes des féminicides. On va retrouver Eyoka qui nous chante La mort à deux.
Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. On est ensemble jusqu'à 21h, une heure pour parler d'actualité sociale et politique. Et on va ouvrir une page internationale. David, tu vas nous parler du Pays Basque.
Ouais, une petite page de solidarité internationale qui commence par un petit tour en Euskadie. Pays Basque Nord, où la répression s'abat sur ceux qui sont solidaires des migrants, puisqu'une action de désobéissance civile complètement assumée et joyeuse avait été lancée cette année sur la Korika. La Korika, c'est une course traditionnelle en faveur de la langue basque, qui a eu lieu en mars dernier et qui reliait les villes d'Irun, Pays Basque Sud, côté État espagnol, au Pays Basque Nord, Bayonne, côté État français. Et à l'occasion de cette course donc à pied traditionnelle, cette Korika, une vingtaine d'organisations avaient revendiqué le passage de la frontière par 36 exilés ce jour-là parmi les coureurs. Hein, une vidéo est même en ligne et a rendu public et retrace le déroulé de cette action ou à l'occasion de cette course qui a impliqué plusieurs milliers de personnes, et ben 36 immigrés avaient été calés au milieu des coureurs et avaient pu ainsi franchir la frontière entre l'État français et l'État espagnol, encadrés, protégés dans cette course par un certain nombre de militants d'organisations associatives, syndicales et autres. Sauf que ça n'a pas plu, bien évidemment, ça n'a pas plu à l'État français, puisque le coup près est tombé mercredi 2 octobre dernier, 7 mois plus tard, puisque 7 personnes ont été convoquées au commissariat de Bayonne et elles sont ressorties l'après-midi après une garde à vue de plusieurs heures et surtout une convocation au tribunal de Bayonne pour le 28 janvier 2025 dans le cadre d'une enquête pour aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulière en bande organisée. Alors ces militants, ces coureurs de cette marche en bande organisant, ce sont des militants qui sont issus des syndicats LAB, de la Bidasoa et Etor Kinekin, la fédération d'associations d'aide aux migrants, mais aussi du parti politique EH Bai, qui est la gauche basque, et puis d'autres de la France insoumise. En tout cas, tous ces militants revendiquent ce qu'ils ont fait, parce qu'ils revendiquent qu'au Pays Basque, les militants de ces différentes organisations ne se cachent pas pour aider les migrants, ni les leurs, ni ceux des autres organisations. Quand ils voient des personnes perdues sur le bord des routes, ils sont beaucoup à les amener au centre Passoa, qui est un centre d'accueil d'urgence pour les exilés dans le centre de Bayonne. Et c'est quelque chose qui est revendiqué, qui est assumé sur cette zone, sur cette zone frontalière. Alors on sait que l'aide à l'entrée et à la circulation et au séjour irrégulier constitue bien un délit dans la loi française, selon le code de l'entrée, du séjour des étrangers, du droit d'asile. Mais s'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte et que l'aide est apportée dans un seul but exclusivement humanitaire, normalement aucune poursuite ne peut être engagée. C'est tout l'objet du fameux débat public qui a eu lieu autour du délit de solidarité qui a été ouvert en France en 2017 par l'agriculteur solidaire et exilé Cédric Héroux. Et c'est ce que revendiquaient ces militants qui ont mené cette action de solidarité, puisque dans leur communiqué à l'occasion de cette course du 28 mars dernier, ils revendiquaient l'action. La vingtaine d'organisations qui étaient à l'initiative de cette action avaient épinglé la politique migratoire répressive de l'Europe forteresse, qui fragilise bien sûr les exilés et qui les pousse vers de nombreux réseaux mafieux d'exploitation et de traite humain. Et puis ces organisations, elles exigeaient aussi l'ouverture définitive des frontières et notamment l'ouverture de tous les ports comme celui entre Irun et Hendaye afin de garantir une libre circulation pour toutes et tous. Alors aujourd'hui, les contrôles de police et aux faciès sont toujours présents sur la frontière qui traverse le Pays Basque. Ils se sont un peu éloignés de la ville de Bayonne. Ils ont lieu aux arrêts de bus sur le chemin vers le centre d'accueil d'urgence justement de Passoa bien sûr on peut s'interroger en tant que société, est-ce que l'on est d'accord sur ce que l'on vit, sur ce qu'on observe au quotidien, qui est cette traque aux migrants. En tout cas, l'annonce de ce procès intervient suite à la mobilisation de Bruno Retailleau, dont on parle une troisième fois dans cette émission suite à sa nomination au ministère de l'Intérieur, et ça intervient intervient donc dans un contexte politique du coup qu'on a déjà décrit comme très inquiétant pour tous les défenseurs des droits fondamentaux des migrants, que la politique d'extrême droite qui est menée par le gouvernement sur la question migratoire elle nous inquiète particulièrement, on l'a aussi dit de nombreuses fois, et ces convocations du 1er octobre, elles entrent tout à fait dans cette logique-là. Et pour les militants solidaires du Pays Basque, comme pour ceux d'autres zones frontalières, on peut pas penser à ceux qui se trouvent vers Gap, dans les Alpes de Haute-Provence, et ben c'est que le début d'une procédure malheureusement qui risque de se généraliser et de réprimer un peu plus tous ceux qui sont solidaires et qui aident à l'accueil et au passage des frontières. Et néanmoins, il va falloir être plus jamais soudés, solidaires avec les migrants et les migrantes et entre les militants. On vous tiendra au courant donc de ce que va donner ce procès, hein, cette convocation devant le tribunal de Bayonne de ces 7 militants, on vous le rappelle, qui aura lieu, procès qui aura lieu le 28 janvier 2025. Rendez-vous est pris, on vous en reparlera sur cette antenne de Radio Canu.
Et on continue la page de solidarité internationale, puisqu'on va évoquer le sort même de Georges Ibrahim Abdallah, puisque le mois d'octobre 2024, eh bien, il marque les 40 ans d'incarcération de ce militant communiste libanais, Georges Ibrahim Abdallah, qui est, d'après la justice, libérable depuis 1999, il est toujours en prison. Et une nouvelle demande de libération a été déposée par son avocat, et comme tous les ans, une manifestation est organisée. Dans son dernier numéro, notre journal Alternative Libertaire vous propose de revenir sur cette affaire et sur ce qu'elle éclaire de notre époque. Je vais vous en lire un extrait. Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste libanais. En 1979, il participe à la création de la fraction armée révolutionnaire libanaise, la FARL, organisation se déclarant communiste et anti-impérialiste, dont il dirige les opérations en France. En 1982, la FARL revendique l'assassinat du lieutenant-colonel Charles Rey, attaché militaire américain à Paris, et de Yaakov Barsimentov, deuxième conseiller de l'ambassade d'Israël, membre du Mossad. Lui, Georges, il est arrêté et incarcéré en 1984, mais n'est inculpé que de faux et usage de faux le 6 mars 85. Les autorités américaines et israéliennes exercent de vives pressions afin de faire alourdir sa condamnation. La découverte d'une arme ayant servi aux assassinats dont l'une des planques des FARL conduit à son jugement par la cour d'assises spéciale pour complicité d'assassinat en 1987. Accablé par la presse, notamment par Le Monde sous la plume d'un certain Edoui Plenel qui n'a reconnu que bien récemment avoir été trompé, la cour le condamne à la perpétuité. En 1987, sort un livre confession dans lequel Jean-Paul Mazurier, avocat de Georges Ibrahim Abdallah, raconte qu'il travaillait en réalité pour la DGSE. Pourtant, la validité du procès ne sera pas remise en cause. Libérable depuis 1999 selon le droit français, 9 de ses demandes de libération conditionnelle entre 2004 et 2020 ont été refusées. Le 21 novembre 2012, le tribunal d'application des peines prononçait pourtant un avis favorable à sa demande de libération, mais avis auquel accède la chambre d'application des peines en la conditionnant à un arrêté d'expulsion. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, reçoit à l'époque un coup de téléphone de son homologue américaine, Hillary Clinton, qui lui demande de ne pas lui rendre la liberté. Soutenir Georges Ibrahim Abdallah, c'est aussi se rappeler son combat. Il est instituteur lorsque commence la guerre civile libanaise de 1975 à 1990, guerre dans laquelle les responsabilités historiques de la France sont importantes. Le Liban est en effet placé sous mandat français à partir de 1920, suite au démembrement de l'Empire ottoman et jusqu'à son indépendance en 1943. Cette histoire coloniale française rencontre celle du colonialisme sioniste qui voit la résistance palestinienne s'installer au Liban où le nombre de réfugiés palestiniennes et palestiniens de la Nakba est important. La minorité chrétienne maronite est alors inquiète de perdre son hégémonie. En effet, après des années de lutte des classes importantes, les groupes d'extrême gauche libanais entrent en connexion avec la résistance palestinienne. Ce sera le cas pour Georges qui s'engage dans le FPLP, motivé par la cause palestinienne, puis participera à la guérilla au sud du Liban. Se rappeler de Georges, c'est aussi se rappeler de cette histoire oubliée, mais aussi d'une décennie, les années 80, qui est cruciale. Elle verra se dérouler l'invasion israélienne du Sud-Liban, durant laquelle seront notamment commis les massacres de Sabra et Shatila. Voilà, je vais pas vous lire l'article en entier, hein, il est long, il entre dans pas mal de détails de la vie, de la lutte et du combat judiciaire de Georges Ibrahim Abdallah, mais vous pouvez retrouver ce numéro en kiosque dans le numéro d'octobre d'Alternative Libertaire, notre journal, le journal de l'UCL, que vous pouvez retrouver aussi dans notre librairie autogérée, La Plume Noire, 8 rue Diderot, dans les pentes de la Croix-Rousse, mais vous pouvez aussi le retrouver gratuitement sur notre site internet unioncommunistelibertaire.org.
On va faire une petite respiration musicale, peut-être pas écouter le morceau en entier, mais faire une petite pause, dernière petite pause musicale avant de terminer l'émission avec deux trois brèves sociales et puis une nouvelle inquiétante qui concerne les radios libres et Radio Canyon en particulier. On vous parlait du Pays Basque, on va retrouver notre ami Fermín Muguruza, militant culturel et politique basque bien connu. Fermín Muguruza excède son album Dub Manifest qui justement nous chante le Bérébar pour rappeler toute la multiculturalité, tout le métissage, toute la solidarité qui peut s'exprimer au Pays Basque dans l'accueil des migrants et des cultures étrangères. Fermín Muguruza, Bérébar sur 102.2 de Radio Canu.
Pas besoin de pitié. Un petit bout d'histoire, un peu d'humanité. Beaucoup de mémoire et pas de minorité, non ?
Ah, Allez, Radio Canus en 2.2, Fermín Muguruza, avec vous avoir connu peut-être en invité le chanteur de Zebda sur ce Berrebar, solidarité du Pays Basque aux migrants internationaux. C'était notre dernière pause musicale. On va poursuivre dans cette émission Idées Noires, émission de l'Union Communiste Libertaire, par une petite page sociale.
Oui, bah, du coup, on salue le camarade Daniel qui nous écoute sûrement. Je vais essayer de me montrer à la hauteur de ces célèbres pages de lutte sociale.
Et qu'on retrouvera bien sûr dès mercredi prochain.
Dès samedi prochain, j'espère que je vais pas lui en piquer d'ailleurs.
Mercredi, Rémi.
J'ai dit quoi ?
Samedi.
Ah mince. Pardon.
Dès mercredi prochain, 20h, sur cette antenne de Radio Canu pour une nouvelle édition d'Idées Noires.
Oui, et puis bah, du coup, je serai moins exhaustif que lui, puisque moi, je n'en ai que deux cette semaine. On commence par Ubisoft, le fleuron de l'industrie du jeu vidéo en France, où de nombreux salariés se mettent en grève pour 3 jours à cause d'une décision de la direction. Cette décision, c'est de rajouter des jours en présentiel sur le lieu de travail, alors que l'entreprise avait autorisé le télétravail pendant le Covid. Le problème, c'est que plus de 90% des salariés de la boîte ont recours au télétravail, et ce retour forcé dans les locaux d'Ubisoft, ça va obliger des salariés à se déplacer ou à déménager, alors que le télétravail leur avait permis de quitter les grandes villes dans lesquelles se situent les locaux pour trouver un cadre de vie plus agréable. Le salaire n'augmenteront pas non plus, forcer des salariés à redéménager ou à se repayer ou à se payer le train tous les jours, c'est les précariser un peu plus. L'autre revendication est donc aussi d'ordre salarial. Comme le dit l'adage, hein, de l'argent, il y en a dans les poches du patronat du secteur du jeu vidéo. J'ai un peu changé la fin, hein, pour coller à cette petite chronique. Sauf que voilà, l'action en bourse d'Ubisoft s'est effondrée. Il faut donc des décisions choc pour les patrons et les actionnaires. Et si ça passe par un peu plus de contrôle et de précarisation des salariés, ce ne sont pas les actionnaires qui vont s'en plaindre. Bon courage donc aux salariés d'Ubisoft. On verra dans quelques jours si la direction les a écoutés. Et plus près de nous, ce sont les étudiants de Lyon 2 qui ont organisé un blocage en soutien au collectif des 100 facs. On est mi-octobre et il reste encore des étudiantes et des étudiants dans le flou qui n'ont pas d'affectation pour cette année. Le collectif 100 facs s'est donc installé sur le campus de Lyon 2 à Bron. Et lui ainsi que plusieurs syndicats ont donc organisé un blocage de la fac pour demander l'intégration de très précisément 7 étudiants. 7 étudiantes et étudiants en situation précaire, notamment certains ayant le statut de réfugié politique. Sur une université qui en compte 27 000, on aurait pu se dire que ce n'est pas déconnant d'en rajouter 7, mais la direction de la fac refuse tout dialogue. Résultat, tôt ce matin à 7 heures, histoire qu'il n'y ait pas de témoins, la directrice a fait appel à la police. Plus de 50 flics CRS sont venus expulser les étudiantes et étudiants présents sur le campement et réquisitionner leurs tentes aussi au passage, hein, pourquoi pas. Il y a eu un rassemblement cet après-midi d'une trentaine de personnes où on a pu voir entre autres l'UNEF, le NPA, Solidaires étudiantes et l'UCL. L'université assure qu'elle est, je cite, « très attachée au droit à la poursuite des études », mais pour pouvoir les poursuivre, hein, il faut déjà aller commencer ces études. Elle examine, dit-elle, de près l'ensemble des demandes effectuées par les candidates et candidats sans affectation. Malheureusement, le mal est déjà fait, hein, le temps de se pencher sur les dossiers y sera Noël, et même s'ils finissent par être intégrés, ces étudiantes et étudiants concernés auront raté la moitié de l'année universitaire. Bravo donc aux camarades qui se sont investis dans cette lutte. Malgré la pression de l'État via la police, les 100 facs ont affirmé vouloir continuer la lutte. À défaut d'assurer une affectation aux étudiantes et étudiants, cette mobilisation aura au moins eu l'avantage de faire réagir la direction de l'université.
Et puis on voulait terminer cette émission avec une annonce, une triste nouvelle qui touche le monde des radios associatives et qui touche du coup directement Radio Canu, ce média sur lequel on s'exprime depuis plus de 30 ans sur cette émission Idées Noires, parce que le projet de loi de finances 2025 présenté par le gouvernement a annoncé une réduction de 35% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui sera donc réduit du tiers de son budget, un peu plus, même 35%. Cette baisse qui est inscrite donc dans le cadre du plan d'économie souhaité par le Premier ministre et son gouvernement, et ben en fait n'est pas une simple coupe budgétaire, puisqu'elle touche donc de plein fouet un secteur vital pour l'expression démocratique et culturelle de notre pays, qui est celui des radios associatives et donc de Radio Canu, qui bénéficie de ce FSER. On sait que les radios associatives, elles sont présentes sur tout le territoire, que ces radios, elles jouent pourtant un rôle fondamental, hein, elles assument un lien de proximité avec les citoyens, elles créent du lien social, elles favorisent la diversité des opinions, elles donnent la parole à ceux et celles qui souvent sont privés, et puis elles ouvrent les micros à différents acteurs des luttes sociales, de la culture, des mobilisations alternatives, des alternatives sociales et politiques, et elles créent une véritable dynamique sur l'ensemble du territoire et sont donc un des acteurs de la vie démocratique et sociale. Et ben, pourtant, c'est ces radios associatives qui vont porter le poids des économies qui sont aujourd'hui imposées par la direction générale des médias et des industries culturelles. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. On peut se demander si, au-delà de simples mesures d'économie, c'est pas aussi étouffer une voix alternative et une voix dissonante. Et c'est pour ça que les radios associatives se sont regroupées dans un syndicat commun, ont publié un communiqué, se mobilisent pour tenter de contester cette décision et pour pouvoir continuer à exister et ne pas se laisser bâillonner. Et on vous en reparlera, parce que Radio Canut est directement concerné, même si Radio Canut a l'air insolide et que sa force et son collectif et son dynamique militant, mais on vous en reparlera, parce que au-delà de Radio Canus, c'est d'autres radios associatives. On peut penser à Radio Dio à Saint-Etienne, à Radio Méga à Valence, à beaucoup d'autres dans la région et ailleurs, et qui sont souvent la voix des sans-voix et qui est importante de maintenir et de défendre. Voilà, on espère que on ne devra pas clore les micros et que les radios libres ne disparaîtront pas. On se mobilisera en tout cas pour cela. Voilà, c'est avec ces dernières informations qu'on voulait terminer cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. On vous rappelle le rendez-vous de demain, 17h30 devant la préfecture du Rhône, à l'appel de Jamais Sans Toi et du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse, dans le cadre de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, pour soutenir toutes les familles d'enfants scolarisés qui dorment à la rue. Et puis on se donne bien sûr rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission d'Idées Noires à 20h sur ce 102.2 de Radio Canut. Et puis moi, je vous retrouve juste après notre générique pour une nouvelle émission de la bande-son de nos révoltes.
Bonne semaine, bonne lutte, et puis longue vie à Radio Canut.
De classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs.